France Inter.
Bonjour à tous. À la une de ce 13h, toujours aussi peu d'informations précises sur la réalité de la catastrophe en Birmanie. Les risques sanitaires s'ajoutent désormais au lourd bilan humain, bilan toujours provisoire, largement provisoire, de plus de 1600 morts. Les rebelles birmans décrètent une trêve temporaire de 15 jours avec l'armée. Ils sont même prêts à collaborer avec l'ONU et les ONG. Nous verrons ce qu'en pense notre invité Aurélien Donnet, le directeur général délégué de l'ONG Acted. À la une également, un nouveau gouvernement en Syrie, une équipe qui reflète un peu mieux les différentes origines religieuses et ethniques du pays. En France, nous verrons comment les jeunes surmontent leurs inquiétudes face à une actualité internationale souvent anxiogène. Enquête de l'Institut Ipsos, quand des adolescents préfèrent en rire sur les réseaux sociaux. Et puis nous irons à Monaco, où l'Institut océanographique inaugure ce week-end son exposition sur l'avenir de la mer Méditerranée, avant le lancement ce soir à Paris de deux journées consacrées aux océans. Il y aura Les Bonnes Ondes de Sandrine Houdin, second épisode dans un garage de Montpellier conçu par les femmes, pour les femmes, avec des cours de mécanique réservés aux conductrices.
Viens là toi, je vais le manger ton boulon. Est-ce qu'il vient ? Ouais, il vient. Il vient.
Et puis le temps de ce dimanche, Céline Dacosta, avec un grand soleil près de la Méditerranée.
Oui, au prix d'un Mistral et d'une Tramontane qui vont encore souffler jusqu'à 90 km à l'heure.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
La Birmanie désormais confrontée donc à des risques sanitaires graves. On évoque des cas de diarrhée, un manque d'eau potable, une famine déjà identifiée par l'ONU avant même le séisme de vendredi matin. Et dans cette Birmanie mal préparée pour faire face à ce type de catastrophe, il est encore très difficile d'avoir une réalité précise des dégâts et donc des besoins. On va en parler dans un instant avec notre invité, le patron de l'ONG Acted. Et nous partons d'abord en Thaïlande, la Thaïlande voisine, qui fait partie des pays aidants, au même titre que l'Inde, la Malaisie, les Philippines, Singapour ou encore la Russie. Et ce matin, donc à Bangkok, un premier avion est parti pour la Birmanie, Bangkok, où se trouve notre envoyé spécial, Valentin Dunat.
À bord de cet avion militaire, 55 personnes, parmi elles une équipe de recherche et de sauvetage, car comme l'explique Surasint Kongsiri, porte-parole de l'armée thaïlandaise,
les 72 premières heures sont décisives.
L'autre urgence est médicale, les hôpitaux sont saturés, certains ont été touchés par le séisme. L'ONU parle également d'une grave pénurie de fournitures médicales. La Thaïlande a donc envoyé des médecins et des personnes chargées d'évaluer la situation humanitaire, médicale, mais également sécuritaire. Ce pays est en proie à une guerre civile depuis 4 ans. Il est donc contrôlé par la junte au pouvoir et par différents groupes rebelles. L'un d'eux, les forces de défense populaire, a décrété un cessez-le-feu partiel pour faciliter les opérations de secours.
Je pense que ça revient à dire qu'ils ont ou partagent le même sentiment que lorsqu'il y a une crise comme celle-ci, ils comprennent le besoin d'aide humanitaire. Je pense que c'est très positif.
En effet, ce groupe rebelle entend collaborer avec l'ONU et les ONG pour, dit-il, assurer la sécurité dans les zones qu'il contrôle.
Valentin Dunat à Bangkok avec les moyens techniques de Sandrine Malon. La Croix-Rouge lance ce matin un appel pour récolter en urgence plus de 100 millions de dollars. Bonjour Aurélien Donnet.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général délégué de l'ONG Acted. Vos équipes sont en train d'arriver, je crois, dans la zone la plus touchée autour de la ville de Mandalay, la deuxième ville du pays, la plus proche de l'épicentre. Quelles sont d'ailleurs les informations de terrain qu'ils vous font remonter ?
Oui, alors nos équipes, en fait, Acted est présent depuis 2008 au Myanmar. Donc on a redéployé, si vous voulez, des équipes qui étaient déjà sur le territoire sur place pour aller immédiatement sur zone. Ils ont mis 11 heures entre Yangon et la ville de Mandalay parce que l'autoroute, la voie rapide est notamment coupée. Ils ont dû prendre des voies alternatives pour pouvoir se rendre sur place. Il faut savoir que c'est le plus puissant séisme enregistré dans la région depuis deux siècles. Et vu qu'il s'est passé à une profondeur, ça n'a pas été très profond, son impact a été massif. Et donc, dès que nos équipes sont arrivées sur place, ce qu'elles ont constaté, c'est évidemment les dommages énormes sur les infrastructures. une grande partie de la ville sont des habitations anciennes, se sont écroulées ou sont sur le point de s'écrouler, comme des châteaux de cartes, comme nous le disaient nos équipes encore ce matin.
Et grosse incertitude, je crois, à propos des villages les plus éloignés des villes. Oui. Ils pourraient avoir subi de lourdes pertes dans ces villages ?
Exactement. Alors c'est pour ça qu'on parle d'un bilan vraiment provisoire, hein, les 1600 morts confirmés et les 3400 blessés. On va voir au fur et à mesure. C'est un peu ce qu'on avait vu d'ailleurs en Haïti ou en Turquie, où après les premiers chiffres, malheureusement, les choses augmentent au fur et à mesure. Et c'est vrai que ces zones rurales sont une grande interrogation. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a déployé avec nos équipes des assessments, des évaluations d'urgence pour aller immédiatement autour de la ville et dans des zones plus reculées. Identifier exactement quels sont les besoins et nos équipes confirment et qu'effectivement les besoins sont énormes et qu'il va y avoir besoin d'intervenir non seulement en zone urbaine comme à Mandalay mais aussi en zone rurale et ça va être un enjeu fort.
Les rebelles birmans décrètent une trêve et même une collaboration avec l'ONU et les ONG. Comment est-ce que vous entendez cela ?
Écoutez, nous, tout ce qui va faciliter, si vous voulez, l'accès aux victimes est une bonne nouvelle. Un acteur comme ACTED qui intervient dans 40 pays pour soutenir 27 millions de personnes sur vraiment les terrains les plus complexes est malheureusement habitué, je dirais, à des situations où on va intervenir là où on le peut et comme on le peut. Et donc, encore une fois, ça faisait 17 ans qu'on était en Birmanie. Donc, on est habitué à intervenir dans ces contextes, je dirais compliqués. Donc,
vous êtes habitué à la Birmanie. Est-ce que vous avez confiance en la junte, d'habitude si frileuse à ouvrir ses frontières, pour qu'elle laisse entrer toute l'aide dont la population a besoin ?
Mais on s'appuie sur une existence avant cette catastrophe. Donc on va, si vous voulez, d'abord travailler avec vraiment au niveau local pour se fournir en aide humanitaire et aider les populations. Et on va compléter ça effectivement d'un dispositif plutôt international. Et donc là-dessus, on espère que ça va aller dans la bonne direction pour pouvoir affréter des biens de première nécessité directement sur place. Donc on est actif, si vous voulez, depuis quelques heures après le séisme. Et donc, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour avancer et soutenir les populations locales. Et on note aussi une solidarité locale qui se met en place aussi dans les villages et les villes qu'on traverse, en tout cas que nos équipes traversent. Et donc, on va vraiment s'appuyer sur cette dynamique pour faire le maximum. Oui.
Merci beaucoup de ce témoignage. Aurélien Donnet, directeur général délégué de l'ONG ACTED. Benjamin Netanyahou se rendra en Hongrie de mercredi à dimanche prochain, un déplacement en dehors d'Israël. Donc, malgré le mandat d'arrêt international de la CPI, la Cour pénale internationale qui le soupçonne de crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza. Le Premier ministre israélien qui affirme d'ailleurs ce matin que le Hamas doit déposer les armes et que ses dirigeants seront alors autorisés à partir. Le Hamas et Israël ont tous les deux reçu hier soir une nouvelle proposition de trêve des médiateurs afin de rétablir le cessez-le-feu à Gaza, ce qui n'a pas empêché ce matin une frappe israélienne sur une maison de Gaza. Il y aurait au moins 8 morts, dont 5 enfants. Un nouveau gouvernement en Syrie. Les nominations étaient attendues depuis près d'un mois. Le président par intérim, Ahmed al-Shara, vante un État fort et stable. Manon Chapelain, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante en Syrie. Alors, parmi les nouveaux ministres syriens figurent de nombreux fidèles d'Ayad Tahrir al-Sham. C'est l'organisation dont est issu le nouveau pouvoir de Damas.
Oui, et parmi eux, trois ministres chargés de la gestion des affaires courantes depuis la chute de Bachar al-Assad restent en poste. Le président par intérim s'est exprimé tard dans la nuit au palais du peuple de Damas devant une poignée de journalistes et des personnalités syriennes venues de tous horizons. Car quelques semaines après les massacres survenus sur la côte contre la minorité alaouite, le président syrien s'est voulu inclusif. Il compte parmi ses 23 ministres un druze, un kurde, un alaouite et une chrétienne, une femme ancienne opposante au régime de Bachar al-Assad et co-organisatrice de la conférence de dialogue national fin février. Autre nomination bien reçue parmi la société syrienne, le chef des casques blancs, secouristes syriens qui ont longtemps œuvré dans les zones rebelles durant la guerre civile. Fait notable, il n'y aura dans ce gouvernement aucun premier ministre. Cela avait déjà été fixé par la déclaration constitutionnelle début mars et renforce les pleins pouvoirs conférés à Ahmad al-Shara, président par intérim jusqu'aux prochaines élections prévues dans 5 ans. À Damas, Manon Chaplin pour France Inter.
Le journal suédois Dagens ETC juge absurde les accusations de la Turquie qui a interpellé l'un de ses reporters jeudi dès sa descente d'avion à Istanbul. Joachim Medin, le journaliste, est accusé d'avoir participé à Stockholm à une manifestation du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, et il devra donc répondre en Turquie de terrorisme et d'insultes au président Recep Tayyip Erdogan.
France Inter. Le journal de 13h, Éric Delvaux.
Marine Le Pen jouera demain sa survie politique. La justice va se prononcer sur l'affaire des assistants parlementaires d'eurodéputés RN. Elle dit ce matin ne pas être fébrile. Interview dans la Tribune dimanche. Marine Le Pen risque 5 ans de prison, dont 2 fermes, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, ce qui pourrait l'empêcher donc de se présenter à la prochaine présidentielle. Et elle le précise, en cas de condamnation effective demain, eh bien, elle fera appel. Cette possible inéligibilité, elle dérange le porte-parole du groupe LR à l'Assemblée, Vincent Jeanbrun. Il était l'invité il y a quelques minutes de l'émission Questions politiques sur France Inter.
Ce serait terrible parce qu'il y a des Français aujourd'hui qui voudraient qu'elle puisse se présenter et qui, à mon avis, ne comprendraient pas qu'elle soit empêchée par la justice. Je pense qu'il faudrait qu'au niveau du Parlement, on revoie la loi Sapin parce que c'est par cette loi Sapin 2 qu'il y a cette inéligibilité prononcée immédiatement. Et là-dessus, effectivement, ça crée encore plus d'incompréhension au niveau des citoyens. En revanche, là, les juges, ils jugent en fonction de savoir s'il y a eu ou pas entorse à la loi, et ça doit être leur seule boussole. Ce qui compte, c'est que la formation politique que représente Marine Le Pen puisse participer au débat démocratique. Si il est avéré qu'elle a commis une faute, elle doit être sanctionnée. Sa famille politique pourra continuer à se battre. D'ailleurs, j'entends dans les couloirs de l'Assemblée nationale certains dire, de toute façon, on imaginait Marine Le Pen présidente, Bardella Premier ministre, et ben ce sera peut-être Bardella président et Marine Le Pen Premier ministre, puisque elle n'est pas empêchée. Voilà.
Le porte-parole du groupe LR à l'Assemblée avec Karine Bécart. L'aide de la France en Ukraine aura 2 milliards d'euros supplémentaires. C'est ce qu'annonçait cette semaine Emmanuel Macron. Eh bien, cette aide ne sera pas financée par des impôts caché, précise le président. Cette actualité ukrainienne, elle a des conséquences en France. Elle serait même de nature à angoisser nos adolescents. C'est ce que révèle le baromètre annuel d'Ipsos sur la santé mentale des jeunes. Ils sont 41% à être préoccupés par les guerres et les conflits. Alors sur le réseau social TikTok, eh bien certains se pressent d'en rire de peur d'être obligés d'en pleurer, selon la maxime de Beaumarchais. Sur ce réseau fleurissent effectivement de nombreux vidéos d'humour autour d'une potentielle guerre entre la France et la Russie. Margot Kefelec.
Chaque jour sur l'application TikTok, Maël, 17 ans, voit des dizaines de vidéos de ce genre.
À l'écran, là, on voit un garçon qui dit « Moi, pendant la Troisième Guerre mondiale, qui pose pour les livres d'histoire en mode BG avec sa petite calèche, là. »
Ces vidéos humoristiques sur une potentielle guerre entre la France et la Russie atteignent jusqu'à 1 million de vues. Il y en a pour tous les goûts.
Moi, si je dois aller à la guerre à cause de Macron, est-ce qu'on peut arrêter les bombardements de minutes, là ? Faut que je fasse un TikTok.
Jusqu'à réinventer une danse sur le tube Rasputin pour amadouer le président russe.
Qu'est-ce que tu fais ? Bah quoi ? Je m'entraîne ?
C'est très drôle, ça nous fait tous rire.
Mais derrière ces rires se cache aussi de l'inquiétude et ces vidéos permettent à ces collégiens parisiens de dédramatiser.
S'il y a une guerre, mais j'aurais peur par exemple mon père ou mes oncles, ils aillent et qu'ils se fassent tuer.
Quand on dit qu'on va nous attaquer, d'un coup on commence à stresser et puis qu'on voit les vidéos, bah on déstresse.
Un usage des réseaux sociaux étudié par Laurent Salard, maîtresse de conférences en sciences de la communication à l'Université de Lille.
C'est vraiment très récurrent d'observer à chaque événement ces prises de position parodiques, ironiques, qui va être privilégié par les plus jeunes qui souhaitent rester dans ce statut justement moins sérieux le plus longtemps possible.
Pour la chercheuse, réaliser ou partager ces vidéos est également une manière de participer au débat public.
Trafic SNCF toujours totalement interrompu en gare de Tours. La circulation restera très perturbée dans les 2 prochaines semaines. Il n'y aura ni départ ni arrivée pendant plusieurs jours en gare de Tours. Seule exception, une navette ferroviaire mise en place chaque heure pour rejoindre la gare de Saint-Pierre-des-Corps. Et tout cela, eh bien, c'est la conséquence d'un incendie hier sur un poste d'aiguillage. C'est ce que précise Francesca Aceto. Elle est la directrice territoriale SNCF Réseau Centre-Val-de-Loire.
Cet incendie a endommagé des centaines de câbles, des milliers de fils électriques. et un millier de relais. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans l'incapacité de faire circuler des trains. Depuis hier, donc, on a des dizaines de personnes qui sont mobilisées 24 heures sur 24. C'est un travail de fourmi pour identifier chaque câble, chaque fil, et ensuite pouvoir commencer à organiser les réparations. Ça va prendre du temps, probablement jusqu'à 2 semaines. On va faire de notre mieux pour pouvoir faire au plus vite. Mais le temps qu'on approvisionne en matériel, comme vous voyez, c'est aussi un site qui est étroit. De toute manière, on ne peut pas avoir des centaines de personnes en même temps pour pouvoir faire ces réparations.
Propos recueillis par Boris Campin, ici Touraine. Ce soir, à Paris, Emmanuel Macron va donner le coup d'envoi aux 2 journées consacrées à l'avenir des océans. SOS Océans, c'est le nom de cet événement international qui débutera donc avec un dîner au Musée de l'Homme, puis des débats demain au Musée de la Marine, en présence notamment de l'ancien vice-président américain Al Gore, de l'acteur Harrison Ford, très impliqué dans cette question, sur cette question, et aussi du prince Albert de Monaco. À quoi ressemblera d'ailleurs la Méditerranée en 2050, c'est le thème d'une exposition qui s'est ouverte ce week-end à Monaco, où le musée, l'Institut océanographique, a décidé de nous faire rêver avec une plongée dans une Méditerranée qui serait en bonne santé, Célia Kiré.
C'est un voyage spatio-temporel que nous présente Tiziana Caporale, responsable de l'animation à l'Institut océanographique de Monaco. Embarqué dans un vaisseau scientifique, le visiteur explore la Méditerranée en 2050.
Là, on est face à une mer qu'on a su protéger depuis aujourd'hui jusqu'à 2050. Les actions pour protéger contre la pollution plastique, la pollution sonore, la pollution chimique, les impacts sur les mammifères n'existent plus.
Le rêve.
Le rêve absolu.
La Méditerranée retrouve une biodiversité foisonnante, ses 17 000 espèces en bonne santé, une utopie assumée pour Pierre-Antoine Gérard, conservateur à l'Institut.
On a plusieurs espèces d'éponges et de coraux, ces coraux qui, à l'heure actuelle, sont un petit peu épars, ont repris vie et colonisent un petit peu l'ensemble des fonds sous-marins de Méditerranée à certains endroits. On a voulu montrer que si on agissait en 2025 et qu'on atteignait ce fameux accord 30-30, c'est-à-dire 30% d'océans protégés en 2030, on pouvait aller vers ce type de futur enviable et désirable pour la Méditerranée. On a envie que le public du musée puisse nous accompagner dans cette volonté.
Et un balai magique de cachalots donne envie d'y croire et d'agir pour sauver ces trésors de Méditerranée. Cette mer presque fermée abrite 7,5% de la faune marine mondiale, 2 fois plus que la Grande Barrière de Corail.
Cette exposition à Monaco est prévue pour durer au moins 3 ans. Voici les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Nous retournons à Montpellier. Second épisode dans ce garage automobile imaginé par les femmes, pour les femmes, un garage militant qui organise des cours de mécanique exclusivement réservés aux conductrices, comme un coup de frein aux dérives sexistes qu'elles disent subir chez certains garagistes. Du féminisme dans le moteur, c'est le combat insolite donc de ce garage-école bâti avec humour, les déculassés, une histoire d'écrou.
Après avoir vérifié le niveau d'huile, rechargé la batterie, nouvel exercice, apprendre à changer une roue, sauf que forcément, il y a des écrous.
Encore, encore, attends, ah ouais, lui, il rentre pas, ah ouais, lui, il rentre pas.
C'est dans l'autre sens.
Sens inverse, vas-y.
Pardon, je vous coupe, pour pas que la roue, elle te tombe dessus, c'est lourd quand même. Alors, comme ça, tu vas tenir ta roue, voilà, et en fait, elle va pas tomber comme ça.
D'accord.
C'est la première fois pour vous, la roue, là ?
Mais ouais, j'ai honte, oh là là. Viens là, toi, je vais le manger, ton boulon. Est-ce qu'il vient ? Ouais, il vient. Il vient. De pas l'avoir fait avant, c'est quand même énorme, ça, de pas l'avoir fait avant. Moi, à chaque fois, j'appelle les copains, en fait. Bon, alors, il vient. Bon, ben, je vais venir, voilà. Donc, si moi, j'arrive à le faire, déjà, ça sera ça d'économiser aussi.
Nous y voilà, les garagistes, toutes rêvent en secret de leur balancer leur manivelle.
Parce que tu vas dans un garage, on te dit ça. Tu vas dans un autre, on te dit encore autre chose. Tu vas dans un troisième, on te dit encore autre chose.
Vous viendriez avec un copain, vous pensez que vous ne feriez pas autant de garages.
Ah, c'est clair. Parce qu'une fois, j'y suis allée avec un copain et les réponses étaient différentes. Et les prix aussi n'étaient pas les mêmes.
D'où l'importance d'être là.
Comprendre une panne, déjà. Comprendre que ça, c'est réparable, qu'on n'est pas obligé de tout changer. Donc moi, si le mécanicien me dit, tiens, on va... Mais non, c'est peut-être pas tout changer, monsieur. Et puis comprendre, vraiment, moi, je trouve, un véhicule, une voiture, on l'utilise tout le temps et on ne sait pas ce qui s'y passe, en fait.
Qu'elle se rassure, Sarami Amrani, la fondatrice des déculassés, n'y connaissait rien non plus. Tout est parti d'un ras-le-bol.
Je faisais pas du tout de mécanique. Je faisais de la recherche en sciences sociales, absolument aucun rapport. C'est au moment où j'ai voulu acheter un véhicule où je me suis retrouvée vraiment dans une situation de sexisme J'avais beau avoir passé des heures à vérifier sur des vidéos, le vendeur ne me prenait pas du tout au sérieux. Moi, je pense qu'il y a des préjugés de genre et des stéréotypes qui sont profondément ancrés. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui viennent en atelier aussi, parce que de fait, il n'y a aucun espace de transmission qui existe. Il n'y a pas de cours là-dessus, par l'école ou les auto-écoles. C'est pas transmis dans le milieu familial. Nous, on a plein d'exemples de personnes qui viennent en atelier qui nous disent « Bah, moi, mon père, il s'y connaît très bien en mécanique, il a tout transmis à mes frères, mais rien à moi. » Il y en a qui sont venus et qui m'ont dit ensuite « Mais merci, merci pour ça, parce qu'en fait, oui, je sais changer une roue, mais en fait, la semaine suivante, j'ai réparé mon four. » Et là, je me suis dit « En fait, je peux. » Et c'est pour ça que ça nous semblait important dans les luttes féministes qu'il n'y ait plus d'inégalité sur l'accès aux compétences techniques. Plus besoin d'attendre sur le bord de la route qu'il y ait un gars qui s'arrête. Plus de dépendance.
Et leur rêve, eh bien, c'est d'éditer un guide Michelin avec une liste des garages les moins sexistes de France. Le temps.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables. Par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
La perturbation de ce matin présente sur le nord, eh bien elle va continuer sa progression.
Oui, on retrouve ce ciel surtout nuageux et parfois accompagné de bruines entre les Pays de la Loire, le nord de l'Aquitaine et en allant vers le nord-est. À l'arrière, là où la perturbation est déjà passée, on va retrouver des éclaircies de la Bretagne aux Hauts-de-France en passant par le bassin parisien. Du soleil, on en a également plus au sud, entre le sud de l'Aquitaine, la région Rhône-Alpes, la région PACA, avec toujours ce vent de nord bien présent, y compris sur les Cap-Corse. Et puis ce Mistral et cette tramontagne qui ont faibli par rapport à ces derniers jours, mais qui soufflent encore à 90 km à l'heure en rafale.
Et les températures repartent à la hausse.
Oui, comme prévu, 13 à 17 degrés cet après-midi, 13 à Caen, 14 à Strasbourg, 15 à Biarritz, 16 à Bordeaux et Lille, 17 à Paris et Montélimar, 19 degrés à Nîmes, 20 à Ajaccio et 21 pour Toulon. Toulon dans le Var, où on pourrait par endroits atteindre les 24 degrés cet après-midi.
C'était les prévisions de Céline Dacosta.